Merci d'écouter RFI, il est 17h à Londres et en temps universel, 18h à Paris et Kinshasa.
Simon Bourtembourg.
À la une de cette édition, une nouvelle vidéo d'otages israéliens publiée par le Hamas. La réaction de l'État hébreu n'a pas tardé. Israël ne se laissera pas intimider, assure à l'instant Benjamin Netanyahou. Nous serons en direct de Jérusalem dans quelques instants. Volodymyr Zelensky est, lui, à Londres, de retour de Washington. Le président ukrainien doit s'entretenir avec Keir Starmer à la veille d'un sommet d'une douzaine de dirigeants européens dans la capitale anglaise. La fin des hostilités entre la Turquie et le PKK. Le parti des travailleurs du Kurdistan a en tout cas approuvé un appel en ce sens de son chef historique. Nous décrypterons ce revirement de situation. Et puis, les bulldozers à l'œuvre à La Réunion. Il faut déblayer les routes après le passage dévastateur du cyclone Garance. Au Proche-Orient, les discussions autour de l'avenir du cessez-le-feu alors que la première phase de l'accord entre le Hamas et Israël prend fin aujourd'hui. Le mouvement islamiste palestinien rejette catégoriquement la prolongation de la trêve selon la formule d'Israël qui prévoit de libérer davantage d'otages. Pas question également de présence de forces étrangères sur le territoire de la bande de Gaza pour la branche armée du Hamas qui prévient que seul un accord de cessez-le-feu ramènera les otages vivants. Oriane Verdier, vous êtes pour nous en direct de Jérusalem. Oriane, les brigades Al-Qassem ont publié aujourd'hui une nouvelle vidéo. Sur celle-ci, on voit un otage israélien toujours détenu qui somme le Premier ministre Netanyahou de signer la paix.
Oui, la vidéo met en scène les adieux des frères Horn. Yair a été libéré il y a 2 semaines, alors que son petit frère Eitan est toujours détenu à Gaza. Après leurs embrassades, Eitan s'adresse avec véhémence face caméra aux autorités israéliennes. Il leur demande de signer la deuxième et la troisième phase de l'accord sans attendre. La famille d'Eitan Horn a rapidement autorisé la diffusion de cette vidéo et réagit via le forum des familles. « Nous avons le cœur brisé », affirme-t-elle dans un communiqué. Nous demandons aux autorités de regarder Eitan dans les yeux, ils n'ont plus beaucoup de temps. L'association des familles d'otages appelle ce soir les autorités israéliennes à tous les ramener en une seule fois dans la semaine à venir. Aujourd'hui, le Hamas a également réaffirmé sa volonté d'aller au bout des étapes restantes de l'accord de trêve devant mener à un cessez-le-feu, au retrait des forces israéliennes de Gaza et à la reconstruction. C'est justement ce retrait que refusent d'envisager les autorités israéliennes qui exigent, elles, une démilitarisation de la bande de Gaza. Elles demandent une prolongation donc de la première phase de l'accord afin d'obtenir de nouvelles libérations d'otages par groupe sans discuter de la fin de la guerre.
Oriane Verdier en direct de Jérusalem, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prévient lui qu'un retour des hostilités dans la bande de Gaza serait catastrophique et que les conséquences pour les civils seraient-elles dévastatrices. Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix était à Beni, au nord du Nord Kivu, en RDC. Une visite lors de laquelle le chef des opérations de maintien de la paix pour l'ONU a rencontré des soldats de la MONUSCO et appelé au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Jean-Pierre Lacroix qui doit aussi se rendre aujourd'hui en Ouganda. L'Ouganda, par ailleurs, où l'épidémie d'Ebola a fait un deuxième mort. Un enfant de 4 ans et demi est décédé des suites d'une contamination au virus. RFI, 17h passé de 3 minutes à Londres, où est arrivé cet après-midi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de retour donc en Europe après sa visite mouvementée et écourtée hier soir à la Maison Blanche. Keir Starmer, lui, le premier ministre britannique, répétera de vive voix son soutien indéfectible à l'Ukraine, alors qu'une douzaine de dirigeants européens doivent se retrouver demain à Londres pour un sommet consacré précisément à l'Ukraine et à la sécurité européenne. Après la confrontation historique hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le risque de retrait du parapluie militaire et nucléaire américain inquiète les 27 et en particulier la Pologne, voisin de la Russie. La correspondance à Varsovie d'Adrien Sarla.
Cher Volodymyr Zelensky, chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls. Hier soir, le premier ministre polonais Donald Tusk a été l'un des premiers dirigeants européens à réagir sur X aux hostilités qui se sont déroulées dans le bureau ovale. À Varsovie, les propos du président Trump et de son vice-président J.D. Vance ont fait l'effet d'une douche froide, car c'est sur les États-Unis que la Pologne comptait pour assurer sa protection face à la Russie voisine, notamment à travers des gros contrats d'armement signés avec Washington ou encore les bases de l'OTAN situées sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski, a assuré se tenir aux côtés des courageux guerriers ukrainiens qui défendent la liberté contre l'agression, l'invasion et le nihilisme. Depuis le début de l'invasion russe, Varsovie craint d'être la prochaine cible du Kremlin si Kiev venait à tomber. Alors, les investissements militaires massifs de la Pologne ces trois dernières années pour créer l'armée la plus puissante d'Europe pourraient s'avérer salvateurs si les États-Unis mettaient leurs menaces à exécution en tournant définitivement le dos à l'Ukraine et à l'Europe. Adrien Sarlat, Varsovie. RFI.
Et sur le front, cette fois, la Russie revendique ce samedi la prise de deux villages dans l'est de l'Ukraine. Les forces de Moscou se sont emparées des localités de Soudné et de Bourlatské, toutes deux situées dans le sud de Donetsk. L'armée de l'air ukrainienne a de son côté rapporté que la Russie a lancé au cours de la nuit dernière 154 drones sur plusieurs régions du pays. La réponse du PKK à l'appel de paix lancé par son chef historique, eh bien, le parti des travailleurs du Kurdistan est favorable à la fin des hostilités avec la Turquie et à de nouvelles discussions en vue de sa dissolution. Cette trêve, alors, si elle est respectée et débouche sur un accord de paix, elle mettrait fin à 4 décennies de guérilla qui ont fait au moins 40 000 morts. Mais faut-il croire à l'avenir de ce cessez-le-feu? La réponse avec Nicolas Monceau, il est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bordeaux.
Il y a une grande inconnue sur les conditions du respect de cette trêve, et l'inconnue sur le respect de cet appel au désarmement et à dissolution par l'ensemble des membres ou partisans du PKK, d'une part, et puis il faut aussi que cet appel à la trêve soit accepté à la fois par les milieux politiques et par la société en Turquie. Or, on observe d'ores et déjà, depuis cet appel jeudi dernier, qu'il y a des clivages politiques. L'opposition au président Erdogan ou à l'AKP au pouvoir, en particulier dans les milieux nationalistes et d'extrême droite, ont déjà exprimé leur opposition à cette trêve. Et un dernier point, la société turque, la population en Turquie, qui est traumatisée par ces 40 années de guérilla, il faut rappeler qu'il y a eu plus de 40 000 morts, de nombreux déplacements de population, destruction dans l'est du pays, et doit aussi accepter cette trêve, et donc il y a une nécessité de préparer l'opinion et d'accompagner l'opinion, la population dans cette direction.
Nicolas Monceau au micro RFI d'Arim Lipold. Je vous le disais en titre, l'île de la Réunion défigurée après le passage du cyclone Garance. Au moins 4 personnes sont mortes alors que le cyclone a traversé l'île du nord au sud la nuit dernière. L'alerte rouge qui imposait le confinement de la population a depuis été levée. Alors cet après-midi, les Réunionnais sont descendus dans la rue pour constater l'ampleur des dégâts. Après de très fortes précipitations qui ont engendré crues et inondations, la priorité est de rétablir l'électricité et de déblayer les routes. Le reportage sur la côte ouest de la Réunion, signé Lola Fourmi.
Le point d'intérêt du jour, c'est cette route à l'entrée nord de Saint-Leu qui s'est tout bonnement affaissée. Les habitants sont venus observer, impressionnés comme Hassan.
Par curiosité, j'essaie de comprendre comment ça s'est affaissé. C'est juste ça, c'est bizarre, c'est étonnant. C'est un mystère, mais moi je suis habitué à la pêche. Et savoir quand la route va dégager, parce que là il y a des capucins qui vont monter bientôt. Et là avec la boue, là c'est bon. Ben.
Un peu plus haut, dans le quartier Boîte aux Lettres, l'eau a pénétré plusieurs maisons. Adélaïde est là depuis 45 ans et elle a rarement vu ça.
Tout ça a été raviné, hein. Vous voyez pas comment c'est blanc là. Tout ça a été raviné et de l'eau est coulée, entrée dans la maison partout. Là c'est pareil. On a épongé, on a tiré de l'eau, mais maintenant ça va.
En ville, chaussures de baignade aux pieds, Ange et toute l'équipe de la boulangerie Copain s'activent après l'inondation de la boutique.
Vous voyez, l'eau elle est montée jusqu'à pratiquement 90 cm.
Vous êtes équipée pour nettoyer?
Oui, Karcher, les raclettes, l'huile de coude. Donc voilà. On pensait qu'on aurait un peu d'eau, mais on ne pensait pas être inondé à l'intérieur de l'établissement jusqu'à plus de 90 cm d'eau, quoi. Mais l'élément de la nature est plus forte. Hein,
La nature plus forte qui interroge aussi certains, comment se préparer à des événements potentiellement de plus en plus violents à l'avenir.
Une inquiétude partagée également à Madagascar, également balayée par un cyclone la nuit dernière. Un événement néanmoins de moindre intensité, même si les pluies et les vents ont été forts dans le pays situé au large de la côte sud-est de l'Afrique. Un mot de sport et de football pour refermer ce journal. La suite de la 24e journée de Ligue 1 ce samedi. Saint-Étienne affronte en ce moment Nice, 3e au classement. Un peu moins d'une heure de jeu et les deux équipes se partagent pour l'instant le score 1 but partout. Dans une heure, le Le Havre se déplacera par contre sur la pelouse de Lens. Et puis ce soir, le choc, le leader PSG face à Lille, 5e. RFI, à 18h, bientôt passé de 10 minutes. Ici à Paris, c'est la fin de cette édition.